because I love music. It's in my head, I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George, I might leave out number letter F, you know? That might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Alors, on avait quitté Miles Davis au Festival de Jazz International de Paris. C'était la fin de la séance d'enregistrement de ce qui avait été proposé par la radio. Mais évidemment, tous les musiciens vont être réunis une dernière fois. Ce sera une espèce d'immense jam session, dirons-nous. Et là, vont se retrouver des musiciens d'univers tout à fait différents. Je vous avais précisé hier, donc on allait pouvoir, si je peux dire, confronter le style de Miles Davis avec Sidney Bechet. Et bien effectivement, ils vont donc se retrouver sur scène. Alors, ce sera donc la dernière séance, cette fois-ci, du 15 mai 1949. La composition du groupe va amener tous les musiciens à se réunir. Il y aura donc Aimé Barelli, trompettiste français, Bill Coleman, Miles Davis, Kenny Dorham, dont le trompettiste à l'heure actuelle de Charlie Parker. On suppose, mais on n'en est pas sûr, qu'il y avait là également Otis Page, mais ça, c'est pas certain. Big Chief, Russell Moore sera au trombone, Hubert Austin, le clarinettiste français, sera présent. Donc Sidney Bechet et Pierre Braslavski seront au sax soprano, Charlie Parker sera à l'alto, Don Byas, James Moody au ténor, Harry Osterwald au vibraphone, Alec au piano, Toots Tillmans ne sera pas à l'harmonica, mais ici à la guitare, Tommy Potter sera à la basse et Max Roach à la batterie. Bien évidemment, on va reprendre un blues. Alors, sur certains albums, il est indiqué « blues » tout simplement. Sur d'autres albums, il était indiqué que c'est Farewell Blues, le blues de leur voix. C'est ce qu'on va écouter donc par ce groupe multi-instrumentiste venu d'univers différents, donc pas vraiment ni bebop, ni swing, ni quoi que vous voudrez. C'est donc vraiment la session toute dernière du Paris Jazz Festival International de Paris.
Thank you.
Voilà, c'est ainsi que se terminait cette session d'enregistrement quelque peu de mauvaise qualité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je vous le rappelle, c'est donc une intégrale et par conséquent, je m'efforce de vous faire écouter tout ce que Miles a pu enregistrer dans de bonnes ou de moins bonnes conditions. Alors effectivement, là, c'était ce qu'il y avait peut-être de pire. Fort heureusement, bientôt, on va passer aux années 50 et au-delà. Et par conséquent, on en aura fini un peu de ces retransmissions radio qui, effectivement, ne permettent pas de percevoir toute la qualité du jeu des musiciens. On va donc quand même savoir qu'à partir de là, eh bien, la vie des musiciens qui étaient présents au festival de jazz à Paris, leur vie va complètement changer. En effet, eh bien, certains vont quitter Paris, d'autres vont y rester. Ce sera le cas de notamment Sidney Bechet, qui a un grand succès, donc, notamment avec l'orchestre d'André Reveglioti. Et effectivement, quand on a un grand succès, on ne quitte pas la ville comme ça. Et puis Miles a découvert quand même qu'en Europe, et notamment en France, eh bien, les musiciens étaient bien plus considérés qu'ils ne l'étaient aux États-Unis. Toujours est-il qu'il va donc, lui, avec d'autres musiciens, retourner aux États-Unis, alors que Charlie Parker, lui, eh bien, va partir pour Londres, parce qu'il a une série de concerts à donner. Ce sera également le cas d'autres musiciens, parmi lesquels, eh bien, notamment Jerry Mulligan, qui va rejoindre l'orchestre de Ted Heath. Et puis, les autres vont séjourner, d'autres partiront. Tous Sylvan, lui aussi, partira aux États-Unis pour faire la carrière internationale qu'il mérite. Mais Charles Parker, donc, lui, ne retournera pas tout de suite aux États-Unis. Il va donc rester quelque temps en Europe, et puis après, ça va se faire ainsi. Quant à Miles, eh bien, il va rentrer. Alors là-bas, aux États-Unis, eh bien, c'est un peu l'événement parce que effectivement, tout a un peu changé. Les amoureux du jazz sont partagés. D'un côté, le jazz traditionnel. De l'autre, les fanatiques du bebop. Les musiciens traditionalistes aux accents Nouvelle-Orléans, surnommés par les beboppers, on va dire qu'ils se veulent modernistes. Il faut considérer que ces musiciens traditionnalistes, eux, sont donc des figures et des têtes de figues moisies. C'est ainsi qu'ils vont les surnommer. C'est vous dire l'antagonisme qu'il y a donc parmi ces musiciens. Alors, eux, les traditionalistes, ont découvert des musiciens comme Bunk Johnson ou George Lewis. Et aujourd'hui, leurs figures de proue ont pour nom Turk Murphy, Wally Rose ou Bob Wilbur. Du côté des modernistes, bien sûr, Charlie Parker et ce qui se fait de mieux est considéré par tous comme le musicien révolutionnaire donc du jazz. Miles Davis, lui, déclara « Je n'ai jamais aimé et les gens qui sentent en flamme le Dixieland. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'autre musique que le bebop sont stupides. Ils démontrent simplement qu'ils ne connaissent rien à la musique. Je n'ai jamais joué de Dixieland. Plus jeune, je jouais comme Roy Eldridge, Harry James ou Freddie Webster. Vous devez avoir pratiqué longtemps avant de jouer bop. Vous devez respecter les bases formulées par les anciens. » Voilà comment Miles se positionnait donc au milieu de cette bagarre entre la tradition et le moderne. Eh bien, au mois de décembre 49, le jour de Noël, oui, le 25 décembre, Miles va participer à un concert au Carnegie Hall. Alors, dorénavant, il n'hésite pas à affronter les grandes salles. Lui qui venait des clubs un peu à la fois mythique, mais vraiment tout petit, de la 52e rue, après son passage à Paris, n'a plus peur de rien, et par conséquent, sollicité donc par Leonard Fizer, avec ses dires à lui, il va donc regrouper Leonard Fizer sous l'intitulé « The Star of Modern Jazz », les principales attractions donc, du moment. La composition du groupe sera celle de donc, Miles Davis à la trompette, Benny Green sera au trombone, Sonny Stitt sera à l'alto, Serge Chaloff sera au baryton, Bud Powell sera au piano, Curly Russell à la basse et Max Ross à la batterie. Donc ce 25 décembre 1949, ils vont débuter le concert avec notamment ce titre Mauve.
To this exciting rhythm section, we bring to you stars of jazz. First on trumpet, Miles Davis. Little Miles Davis. On baritone, Sir Cello. On alto, Sonny Stitt. And finally, on trombone, Benny Green. Here they are. We'll be right back.
Par le groupe de Miles Davis, donc Mauve, ça se produit effectivement au Carnegie Hall. Cette fois-ci, c'est le 25 décembre 1949. Alors, Miles n'est pas la vedette de cette session. La vedette, c'est Sarah Vaughan, elle, qui va se produire donc avec son nouveau groupe, qui inclut notamment Roy Haynes à la batterie et Red Rodney à la trompette. Et puis, malgré tout, Miles taille une belle part du programme. Il est donc venu au début, on pourrait presque dire en première partie, avant Sarah Vaughan, et il a eu un tel succès que Leonard Feather va décider que malgré tout, il va pouvoir revenir, mais pour terminer le concert, Sarah Vaughan a terminé, elle a fait sa prestation sous les acclamations, et puis Miles a eu un succès d'estime au début, par conséquent, deuxième chance pour Miles Davis et son groupe, dont je rappelle la compo, avec donc Benny Green trombone, Sonny Stitt à l'alto, Serge Chaloff au baryton, Bud Powell au piano, Curly Russell à la basse, Max Roach à la batterie. Alors Miles est ravi parce qu'il a enfin retrouvé son pianiste favori Bud Powell, mais aussi un sax qu'il a longtemps souhaité voir dans son groupe pour remplacer Charlie Parker, Sonny Stitt. Ils vont reprendre un thème bop par excellence, Hot House. Thank you. House, donc par Miles Davis avec son groupe. Et puis, bien sûr, il faut terminer cette session et on va donc, c'est la radio Voice of America, le réseau de radio en Europe qui va enregistrer ce concert. Et bien sûr, c'est Leonard Feather qui, lui, a organisé le concert. Et il va déclarer, lui, « J'avais mis toutes mes économies dans ce concert. À l'époque, ça m'a coûté 200 dollars et je ne savais pas ce que ça allait donner. 200 dollars à l'époque, c'était une très grosse somme pour un concert. On ne s'en rend pas compte aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est en 1949 et que par conséquent, le dollar étant ce qu'il est, il avait une valeur qui était celle qu'il n'a pas aujourd'hui, certes. Et 200 dollars, c'était énorme. C'était parfois, vous le savez sans doute, même pas ce que pouvait gagner un musicien de jazz dans la semaine pour un engagement dans un club. Donc imaginez que pour une seule soirée, il fallait être certain que le public serait là. Le public est là, alors il apprécie bien plus Sarah Vaughan que Miles Davis et son groupe, mais qu'importe. Leonard Feather va donc donner un nouvel élan au jazz avec donc ses concerts qui donneront des idées, notamment pour le GATP de Norman Granz, vous savez, Jazz at the Philharmonic, mais ça, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, on va donc terminer la séance avec un thème bop parmi les thèmes bop, c'est bien sûr Ornithologie. Thank you. Voilà, c'est ainsi que va se terminer cet enregistrement donc, de ce concert donné donc, au Carnegie Hall avec Miles Davis notamment, et je le disais donc, en principale vedette, Sarah Vaughan. Et Sarah Vaughan, il la retrouvera un peu plus tard d'ailleurs, Miles Davis. Pour l'instant, donc, au début des années 50, va s'ouvrir pour Miles une nouvelle période musicale. En effet, il considère que le bop, pour lui, c'est pratiquement terminé. Il a besoin d'une musique qui respire davantage, finit la course au déluge de notes. Il va donc trouver là une nouvelle dimension et il va s'intéresser à une nouvelle génération de musiciens et parmi eux un saxophoniste ténor venu de Harlem. Il est plus jeune que Miles, il a 3 ans de moins que lui. Il a commencé en 1949 et débuté pour le label Capitol. Le 20 janvier 1950, il va faire partie du groupe du vocaliste Bob Gonzalez, peut-être le seul qui a su vraiment interpréter le bebop. Eh bien, ce musicien a pour nom tout simplement Sonny Rollins. Et on va l'écouter ici donc avec Bob Gonzalez pour le thème Professeur Bop.
There's a cat in Harlem town. Got a new craze going round. Oop-y-dop-la, hilly-vop. Called Professor Bop. Wears a tam and big bow tie. Flashy clothes that catch your eye. Oop-y-dop-lop, Kluger Mop. He's Professor Bop. He's the latest thing derived from swing. Lop-pop-a-hulia-coo. See him everywhere, hear him on the air. He can do it, so can you. Take a song like Auld Lang Syne. Then you add a bebop line. Oop-y-dop-lop, Kluger Mop. Like Professor Bop.
Professeur Bop, donc par le vocaliste Bob Gonzalez. Effectivement, Sonny Rollins, qui prenait ici un solo, a vraiment d'ores et déjà le même phrasé, si on peut dire, que Miles Davis. C'est un peu son pendant, mais au sax ténor et non pas à la trompette. Et Miles est tout à fait séduit par ce musicien, d'autant que je ne le fais pas écouter, mais il y a un autre solo sur lequel c'est encore plus marquant. C'est toujours avec donc Bob Gonzalez et le titre s'appelle Capitalizing. Donc on va donc considérer que Sonny Rollins va être engagé par Miles Davis, on le suppose parce que rien n'est encore très certain, et bien pour des prestations qu'ils vont donner au Audubon Ballroom Donc, et puis, Miles s'intéresse vraiment aux jeunes musiciens. Il avait, à une époque, constaté qu'un jeune musicien venait fréquemment au Fredio's. Il était sur le devant de la scène, tout pratiquement collé près des musiciens. C'était Jackie McLean, il avait à l'époque 16 ans, donc maintenant il a un peu grandi. Mais il va surtout découvrir en même temps un saxophoniste, lui, venu de Philadelphie. À l'époque, il est membre de l'orchestre de Dizzy Gillespie comme alto. Mais il va très rapidement avouer une préférence marquée pour le sax ténor. Il a pour nom, évidemment, John Coltrane. Ce sera donc une première découverte de Coltrane avec Miles. Pour l'instant, pas d'enregistrement, ça viendra par la suite. Vous le savez, on considère donc que le quintet Miles Davis, John Coltrane sera peut-être un des plus beaux quintets de l'histoire du jazz, mais ça, ce sera pour plus tard. On va donc en rester là. Alors, il faut dire que à New York, eh bien, tout est en train de changer. Broadway se porte on ne peut mieux et voit fleurir l'ouverture de nouveaux clubs, parmi lesquels le Bob City ou le Birdland, dénommé ainsi, bien sûr, en hommage à Charlie Parker. Miles va s'y produire le 10 février, recruté par un saxophoniste au ton lyrique inspiré par Lester Young, très connu à cette époque-là pour avoir joué dans l'orchestre de Woody Herman et notamment pour sa version donc de Early Autumn, Stan Getz et Woody Herman. Woody Herman, Stan Getz, Early Autumn. C'était évidemment précédemment à la période avec Miles, mais il me paraissait intéressant quand même de montrer un peu qui était Stan Getz à une époque précédente. Et effectivement, il avait lui aussi besoin de cette respiration dans ses solos qui feront un peu l'image de marque de Miles Davis par la suite. Alors Miles et Stan Getz, eh bien, vont être engagés, notamment au Birdland. Dans la formation suivante, il y aura donc Miles Davis, Stan Getz, Tad Dameron piano, Gene Ramey est à la basse et Max Roach à la batterie. Et on peut dire que ce sera là aussi une évolution parce que dans ce groupe, eh bien, on va découvrir des arrangements qui se feront organisés de la manière suivante, de longues parties arrangées avec des riffs qui vont être exécutés en background derrière les solistes. Alors ce ne sera pas le cas avec le thème qu'on va écouter parce que cette fois-ci, dont Miles ne participera pas à l'enregistrement de ce thème, That Old Black Magic, qui date donc du 16 février 1950. En effet, ce sera donc le quartet avec Stan Getz plus la section rythmique. That Old Black Magic, donc repris en direct depuis le Birdland. Alors effectivement, c'est peut-être une des rares sessions parce que Miles dorénavant considère qu'il s'est fait un nom, qu'il a une très bonne réputation, qu'il est adoré par les musiciens et maintenant par une grande partie du public. Par conséquent, jouer en tant que sideman, c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. Malgré tout, il va être engagé par Stan Getz. Il va donc faire office de trompettiste auprès de leader Stan Getz et ça va se passer donc au Birdland et on va reprendre là des thèmes qui seront certes des compositions qui ne seront pas celles de Miles mais qui le deviendront par la suite, ses thèmes favoris et parmi lesquels eh bien, la composition de Dizzy Gillespie, Wood in You. Thank you. Woody and You, donc une compo de Gillespie, interprétée ici donc par le Stan Getz Miles Davis Sextet. Alors la composition du groupe, c'est Miles à la trompette, Gigi Johnson a été recruté au trombone, Stan Getz bien sûr au ténor, Tad Damron est au piano, Gene Ramey à la basse et Art Blakey à la batterie. C'est retransmis donc depuis le Birdland le 16 février 1950. Alors, c'est paru encore sur un label tout à fait pirate, hein, c'est le label Ozone. C'est le premier du groupe Ozone. Il a pour titre Miles Davis, Dick Eman et Sonny Stitt. Mais si vous voulez une qualité digne de ce nom, je vous invite, si vous souhaitez avoir cet album, à vous rapprocher du label espagnol Fresh Sound, qu'il a donc remis un peu en qualité hi-fi entre parenthèses, avec la référence FSR 124, et il a pour titre Miles Davis, featuring Stan Getz, Birdland Days. On va donc continuer cet enregistrement, donc du Birdland, avec une composition qui est due à la collaboration du bassiste Ray Brown et de l'arrangeur Gil Fuller. Ce titre-là, c'est donc tout simplement Raise Heidi. Thank you. Raise ID, donc une compo donc de Ray Brown et Gil Fuller, et on va donc en arriver à la fin de l'émission intégrale jazz. Je vous rappelle qu'elle est donc diffusée le mercredi et le mardi en direct, mais elle sera donc celle-ci rediffusée dès demain matin à 10h, puis également donc dimanche en fin d'après-midi. Mais bien évidemment, sur le site de la radio, vous pouvez retrouver les émissions, ainsi que sur le site Facebook de la radio. On va donc terminer l'émission avec le thème Conception, qui est une composition de George Shearing, le pianiste aveugle, qui avait été réalisée en juillet 1949. C'est peut-être d'ailleurs la plus belle conception, c'est le cas de le dire, de cet enregistrement, parce que c'est là où l'arrangement est le plus soigné. Et c'est ainsi que je vais donc vous dire au revoir, en vous disant donc qu'on se retrouvera mardi pour terminer donc cette session du Birdland et puis revenir à l'album mythique dans The Birth of the Cool. Ce sera donc pour mardi prochain. Pour l'instant, un court extrait de Conception.